Le SNCL, le salon des maires et des collectivités locales du 16 au 18 novembre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Action Logement sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bien voilà, c'est lancé le salon des maires et le congrès des maires et des collectivités locales. Merci d'être avec nous pendant toute cette journée où on va parler des territoires et des élus.
Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend. Bonjour,
ouais, non, vous
bonjour Fabienne, bonjour Sylvain. D'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation, puisqu'en fait, on fait l'ouverture du salon.
Eh oui.
Et pour la NCT qui a à peine 2 ans, hein, puisqu'on fêtera entre guillemets nos 2 ans au 1er janvier 2022, c'est un événement important puisque c'est notre premier salon, hein, du fait du Covid et de l'annulation du salon l'année dernière. Donc effectivement, Fabienne, vous le rappeliez, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est quoi ? C'est avant tout une grosse boîte à outils mise à disposition des collectivités locales pour que l'État accompagne les projets de ces collectivités. Donc dans tous les domaines d'intérêt des collectivités locales, nous jouons en quelque sorte un rôle d'assemblier, hein, en appui au projet des collectivités, avec un relais de terrain très important qui est le préfet de département. C'est autour du préfet de département que s'organise la relation avec les collectivités locales, et nous sommes, nous, en appui de l'État territorial, du préfet et de ses services, pour apporter des solutions aux projets des collectivités, dans un souci aussi de complémentarité. L'idée, c'est pas de réinventer des choses qui existent déjà, hein, mais de trouver la valeur ajoutée là où il y a des besoins particuliers à satisfaire.
Alors il y a j'aimerais bien qu'on revienne un peu à la genèse du projet, puisque c'est Jacques Mézard qui avait initié le projet avec Julien de Normandie pour ce formidable enjeu. Vous rappelez, on vous avait reproché à l'époque de n'avoir choisi que 222 villes. Puisque si on parle du plan Action Cœur de Ville, il y a des centaines et des centaines de villes qui seraient concernées. Il y a eu une espèce de numerus clausus, on peut y revenir là-dessus. J'aimerais qu'on revienne. Pourquoi ces 222 villes et sur quelle base elles ont été choisies ?
Alors, on a fait mieux depuis, puisque oui. Avec en fait, Action Cœur de Ville, elle a servi un peu de banc d'essai à la méthode de travail de la NCT, puisqu'en fait, Action Cœur de Ville a été lancée avant même la création de l'agence, mais dans la même philosophie. Hein, Action Cœur de Ville,
c'est... Mais pas avec la même enveloppe de moyens.
Alors, pas avec les mêmes moyens, mais aussi avec banc d'essai qui était quand même non négligeable. C'est 222 villes, donc 222 villes moyennes, qui se distinguaient notamment par des caractères de fragilité, c'est-à-dire des difficultés de leur centre-ville.
Ouais, avec, démographie négative.
Absolument, perte de population, paupérisation relative des populations qui restent, perte de commerce. Donc, il y a un certain nombre de critères qui font qu'on estime qu'un centre-ville a des difficultés. Et c'est par rapport à ces difficultés que Action Cœur de Ville offre là aussi une boîte à outils, avec, de manière très partenariale, puisque Action Cœur de Ville, ça rassemble autour de l'État des grands opérateurs comme l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, par exemple, un grand partenaire qui est Action Logement.
Action Logement.
Le 1% logement, qui est pour nous aussi vraiment...
Mais il y a aussi des partenariats privés avec des promoteurs
absolument.
Locaux,
et ça,
des promoteurs nationaux.
Et c'est très important, parce absolument. Que Action Cœur de Ville, ça a permis aussi de faire revenir dans des villes...
Des investisseurs
qui les avaient quittés depuis parfois plusieurs décennies. Donc c'est Action Cœur de Ville, la présidente du conseil d'administration de la NCT, qui est Caroline Cailleux, et qui est maire de Beauvais et oui, présente
qu'on va recevoir d'ailleurs, me semble-t-il, dans la journée.
Eh bien, écoutez, elle est présidente de Ville-de-France, qui est l'association des villes moyennes. Donc, c'est un sujet qu'elle connaît particulièrement bien. Elle a été aussi partie prenante de la création du programme Action Cœur de Ville. Et elle a souvent l'occasion de dire que c'est le premier programme qui s'intéresse au centre-ville depuis Olivier Guichard, c'est-à-dire depuis la grande politique d'aménagement du territoire du général de Gaulle dans les années 60. Si on doit donner qu'un seul chiffre, c'est 5 milliards d'enveloppe sur la durée initiale du programme, puisque ce programme va être prolongé. Donc, 5 milliards, c'est quand même non négligeable. C'est des programmes qui sont aussi bien des programmes d'habitat, de logement, que des programmes de rénovation commerciale, ou des programmes aussi destinés à créer des nouvelles infrastructures publiques dans les centres-villes pour faire revenir les populations et les flux dans les centres-villes. Donc c'est au final énormément de projets. Alors pour la journée nationale Action Cœur de Ville du mois de septembre, on avait demandé à chacune des 222 villes de choisir un programme emblématique, ce qui a été difficile pour beaucoup de villes parce qu'elles en ont souvent plusieurs.
Mais bien sûr.
Et ça nous a permis de publier un recueil de ces différents projets, et on voit bien la diversité et la richesse de ces projets.
Alors justement, on va entrer un petit peu dans le sujet, alors sans faire de politique, hein, c'est pas le sujet, mais quand même, on l'a appelé on l'a appelé un peu le plan Marshall de redynamisation des centres-villes, qui était vraiment dramatique, hein, faut quand même le dire, avec parfois des centres-villes dans lesquels il y a eu des options politiques un peu malheureuses, notamment le fait de faire du tout piéton, qui a finalement fait fuir les consommateurs et donc appauvri les commerces. Moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est, outre le fait qu'on vous a donné des moyens, qu'on a doté de moyens conséquents, outre le fait que vous avez ramené des investisseurs privés, et vous avez raison de le souligner, ils avaient déserté certaines villes dans lesquelles il n'y avait pas de profondeur de marché, où il n'y avait pas de marché du tout, hein, clairement. Il y a un autre aspect aussi sur lequel j'aimerais bien avoir votre avis, c'est le fait que les bâtiments finalement non entretenus, finalement, s'appauvrissaient par eux-mêmes. Donc, quelque part, ils se contaminaient par eux-mêmes. Comment on fait pour résoudre l'équation du fait que l'emploi ne peut pas être dissocié du logement? Parce que, en fait, on se rend compte que la bonne équation, hein, c'est consommation, logement, emploi et, j'allais dire, loisir, éducation, si on peut dire les choses. Sur tous les projets vous êtes, sur lesquels vous avez bossé, est-ce que vous avez un projet, pas dire emblématique, mais dans lequel il y a la réunion de ces trois éléments, c'est-à-dire qu'il y a de l'emploi, on a requalifié le centre-ville, c'est redevenu dynamique, il y a des commerçants qui sont revenus, et on a des investisseurs qui se sont dit, tiens, on va construire, reconstruire, on va faire du partenariat public-privé, on va aménager, on fait revenir un peu la voiture, mais à la portion congrue, on fait comme à Metz, on met les parkings en sous-sol pour aménager une place magnifique devant l'Arsenal, par exemple, des choses comme ça, voilà.
Alors, d'abord, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de réponse unique à des difficultés qui
peuvent être
de nature diverse. Les axes sur lesquels nous travaillons en lien avec les partenaires sont assez simples. C'est-à-dire, effectivement, le retour des populations dans les centres-villes. Donc, pour ça, il faut une offre de logement qui soit adaptée à des besoins différenciés. Parce que, par exemple, les gens qui ont les moyens doivent pouvoir trouver, qui peuvent choisir la nature de leur logement, doivent pouvoir trouver en centre-ville un logement qui leur correspond. Or, un des sujets dans les centres-villes historiques, c'est que cette offre de logement ne correspond pas à la demande de population.
Obsolescence des bâtiments.
Qu'on va qualifier de CSP+.
Voilà, c'est ça.
Donc là, c'est une vraie politique d'investissement. Hein, ce qui est nécessaire, c'est de pouvoir, dans un partenariat public-privé souvent d'ailleurs, trouver les moyens de développer cette offre correspondant à la demande. Ensuite, si on veut que nos concitoyens reviennent dans les centres-villes, il faut qu'ils y trouvent des commerces qui les intéressent. Donc là aussi, il faut travailler sur l'offre commerciale. Et de ce point de vue, beaucoup de villes ont mené des études intéressantes, notamment avec l'appui de la Caisse des dépôts, par exemple, qui est aussi partie prenante forte d'Action Cœur de Ville sur la création de postes de managers de centre-ville, de managers de commerce, pour pouvoir travailler sur l'offre commerciale qui permet à nos concitoyens de venir dans les centres-villes pour avoir une expérience aussi. Hein, parce que c'est aussi ce qu'on recherche. Donc c'est vraiment une idée assez globale. Et puis il y a la question aussi de la qualité des équipements publics, de la voirie, parce que il faut que le déplacement en centre-ville soit agréable. Donc effectivement, le sujet aussi, c'est la place de la voiture, comme on travaille sur cette question. Là aussi, il n'y a pas de solution miracle. Il y a eu effectivement des erreurs dans les décennies passées. Bon, voilà, c'est compréhensible aussi qu'on travaille sur ces différentes questions. Il y a eu aussi des vraies erreurs architecturales. Des entrées de ville mal pensées, moches.
L'urbanisme triomphant des années 70, on aurait mieux fait d'enfermer les architectes à l'époque.
Écoutez, enfin, moi, je n'ai pas de jugement de valeur sur les archis qui sont pour nous des partenaires aussi importants.
Franchement, c'était moche. Quoi.
Je peux vous donner, puisque vous vouliez des exemples, je vais parler d'exemples que je connais pour y avoir vécu en tant que représentant de l'État. Par exemple, une ville comme Saint-Brieuc a beaucoup travaillé sur justement l'effacement d'un certain nombre de ces sujets, notamment à l'entrée de la ville.
Qu'est-ce qu'elle est belle, cette ville.
Et c'est une belle ville, et c'est une ville riche en patrimoine. Donc c'est un exemple très très concret de cette réflexion sur à la fois la place des transports publics, la place aussi de la voiture, parce qu'il faut aussi que beaucoup de nos concitoyens se déplacent en voiture. Et puis vous savez que le lien entre la ville et le territoire rural, il se fait par l'automobile, on le sait bien. Donc comment on fait revenir des gens qui ont le choix d'aller faire leurs courses là où ils veulent, par exemple? Et c'est vrai que parfois, c'est plus simple d'aller dans un commerce de périphérie où vous avez le parking gratuit et qui est juste au pied du... Donc il faut aussi travailler sur tous ces sujets. Action Cœur de Ville ne va pas s'arrêter en 2022, puisque le président de la République, le Premier ministre se sont engagés au renouvellement du programme. Nous travaillons actuellement avec les partenaires sur ce que sera Action Cœur de Ville 2, si je peux me permettre l'expression. Donc ça, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Avec la pérennisation en plus annoncée d'outils qui ont été développés dans le cadre du plan de relance et qui sont des outils majeurs pour Action Cœur de Ville. Je pense notamment au fonds friche, hein, parce que un des sujets quand on travaille...
C'est capital.
Voilà, un des sujets quand on travaille en centre-ville, c'est de pouvoir couvrir un déficit d'opération souvent lié à la requalification d'un espace déjà artificialisé.
Il y a des dizaines de milliers de friches. Il y a 30 ans d'aménagement.
Alors,
devant nous.
C'est pour ça que la pérennisation du fonds, qui à l'origine était un fonds surtout provisoire dans le cadre du plan de relance, cette pérennisation est très importante. Donc Action Cœur de Ville se prolonge. Et puis la logique d'Action Cœur de Ville a été jugée suffisamment efficace et intéressante pour être développée sur d'autres types de communes et de villes. Donc c'est le programme Petite Ville de Demain, qui est aussi un programme porté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. C'est même le
ça veut dire qu'on va élargir le nombre ?
Voilà. Alors, je rappelle juste, Action Cœur de Ville, 222 villes.
D'accord.
Et Petite Ville de Demain.
Avec les critères que vous avez évoqués tout à l'heure.
Exactement.
D'accord. Et demain, c'est donc.
Alors, Petite Ville de Demain, ça, c'est. On est sur la population des centres-bourgs. Hein,
c'est
dire que
quoi un centre-bourg ? 10 000 habitants ?
Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fixé un plafond, mais pas de plancher. Parce que dans un département très densément peuplé, une petite ville, ça va être 15 000 habitants.
Oui.
Mais quand vous allez dans des départements très ruraux.
On est entre 1000 et.
On peut même être en dessous de 1000. Enfin, c'est-à-dire que
Ah non, vous n'avez pas fixé le seuil minimal.
Non,
pas de seuil. Par contre, il y a un max.
Voilà.
Lequel ?
Alors, le max, c'est 20 000.
C'est 20 000.
C'est 20 000. Et donc, sur Petite Ville de Demain, c'est 1600 communes. Donc, on voit le développement de la logique. 1600 communes, dont plus de la moitié ont moins de 3500 habitants. Donc, c'est vraiment des centres-bourgs. C'est-à-dire que dans un territoire rural, c'est la ville où nos concitoyens viennent chercher les commerces, les services publics. Enfin, moi, je suis moi-même issu d'une région rurale. Je vois très, très bien ce qu'est une petite ville de demain parce que j'y ai grandi.
C'est clair.
Cette population de communes a des besoins en plus, encore plus forts en ingénierie. Ça, c'est quand même la valeur ajoutée de la NCT. C'est donner aux élus la capacité de pouvoir porter leur programme. Mais avant même les moyens financiers, il faut être capable d'aller les chercher. Et donc ça, beaucoup de communes, des communes dont on parle, n'ont pas cette capacité parce que c'est des tout petits services et c'est des villes qui sont très, très peu équipées, en fait. En service technique.
C'est bon signe, ça. Ça veut dire que donc c'est actif déjà ou ça
oui, bien sûr. Ça a été lancé fin 2020. Le programme est complètement
actif. Et c'est vous la NCT qui coordonnez.
Et sur Petite Ville Demain comme sur Action Cœur de Ville, on joue ce rôle d'assemblier, de coordonnateur avec les différents partenaires.
Au sein de l'agence que vous dirigez, vous avez un pôle.
Absolument. Une équipe consacrée à ce programme.
Oui. Une équipe consacrée. Avant de vous céder la parole, justement, je voudrais vous demander deux trois points qui sont à mon avis cruciaux. En France, on a un vrai sujet depuis. Alors, je ne vais pas fustiger ce quinquennat, mais cette tendance à peu près 10 ans. Chaque année, on a une réduction résiduelle du nombre de permis de construire instruits. Même plus loin, je vais vous donner un chiffre. 65% des PLU aujourd'hui, hein, PLU ça vous parle, ne sont pas faits à 100%. C'est-à-dire qu'on a des maires qui vous disent « Je vais vous instruire votre PC, aucun problème. Par contre, là où vous avez un R+4 prévu dans le PLU, vous ne ferez qu'un R+2, par exemple. » La question du logement neuf ou la question du réaménagement, de la réhabilitation, ça vous touche particulièrement. Quand on s'appelle préfecture, enfin, quand on dépend de l'État, c'est plus facile ou pas ?
Alors, d'abord, je crois qu'il faut rappeler que la problématique de la construction s'inscrit dans des objectifs, notamment de transition écologique. On vient de voir la COP26, donc... Des sujets, c'est notamment la limitation de l'artificialisation des sols.
D'accord. Okay.
Donc ça, c'est le premier sujet. Donc un certain nombre de documents d'urbanisme qui avaient été conçus dans d'autres...
Un PLU est adopté chaque année.
Voilà.
Quand vous avez un PLU qui est exploitable, il est exploitable.
Alors,
c'est régalien et discrétionnaire de la part du maire de dire non.
Alors ensuite, le droit des sols, depuis 40 ans maintenant, depuis la décentralisation, est l'apanage des élus locaux. Le plus souvent, l'État favorise et pousse les communes à le faire et les intercommunalités via des documents d'urbanisme comme les PLU. C'est pas le cas partout. Hein.
On a encore beaucoup
de petites communes qui n'ont pas de documents d'urbanisme. Mais là où il y a un document d'urbanisme, c'est vraiment l'apanage du maire de pouvoir délivrer ses permis de construire. Ce que je pense en revanche, c'est qu'on assiste à une vraie transition dans l'économie du logement. C'est-à-dire que effectivement, là où on était très consommateur d'espace, alors ça, je ne ferai pas de déclaration sur le sujet parce que j'ai cru entendre qu'une ministre récemment l'avait fait. Mais en revanche, ce qui est vrai,
Absolument. Elle sera avec nous d'ailleurs le 24.
Ce qui est vrai, c'est que on voit bien que le modèle du lotissement, c'est-à-dire ce qui a longtemps fait le développement spatial de la commune, c'est-à-dire je construis de plus en plus loin du centre. Et avec tout ce que ça entraîne aujourd'hui comme difficulté identifiée, le prix du carburant qui obère le budget des ménages, les difficultés à partir d'un certain âge pour pouvoir se déplacer, enfin toutes ces questions-là, on essaye de les traiter aussi au travers d'Action Cœur de Ville et de Petite Ville de Demain, parce que quand on fait revenir les populations dans les centres-villes, on utilise du foncier déjà artificialisé, et en plus on répond à une demande sociale qui est une demande sociale qui est croissante.
Ma question, répondez à ma question. Est-ce que vous avez plus de facilité, non, objectivement, est-ce que vous avez plus de facilité à faire signer les maires, que ce soit de la transformation, je parle de la transformation. Oublions le fait qu'il n'y a pas d'étalement. Bon, ok, ZAN, zéro artificialisation nette, pas de problème, on est d'accord. Sur le centre-ville, il y a des problèmes de requalification qui sont liés par exemple à la surélévation des bâtiments, vous le savez, ou tout simplement à la déconstruction. Alors, soit une déconstruction, alors quand je dis, je vais pas parler de destruction, je parlais de déconstruction pour pouvoir réaménager. Est-ce que, quand on est la NCT, que vous avez des investisseurs, que vous avez une dotation qui n'est pas négligeable, est-ce que le maire est beaucoup plus enclin à vous suivre?
Alors, pour répondre complètement à votre question, en tout cas, c'est des outils supplémentaires dans la main d'un préfet pour pouvoir discuter avec les collectivités locales.
Le préfet peut prendre la main, on est d'accord?
Alors, non, enfin, en général, c'est pas une question de substitution. Mais en revanche, ça fait partie des éléments de dialogue avec un maire. Et je vais vous donner un deuxième exemple qui me semble aussi important dans l'évolution
législative. Pardonnez-moi, Jean-Yves, juste qu'on comprenne bien pour ceux qui nous écoutent. Non, parce que ceux qui nous écoutent, c'est une question vraiment cruciale. Quand il y a un truc qui est pas clair avec la mairie, où on sent qu'il y a un conseil municipal, un niveau d'acceptabilité aussi du public. Est-ce que le préfet peut prendre la main de façon coercitive?
C'est pas le sens de ma remarque. Et puis là, pour le coup, il y a une vraie logique de nos institutions qui a été de donner au pouvoir local la capacité d'utiliser l'espace.
Le préfet ne peut pas.
En revanche, il y a des instruments, notamment dans le cadre d'un programme comme Action Cœur de Ville, par exemple, pour pouvoir résoudre un certain nombre de difficultés objectives auxquelles les maires sont confrontés quand il s'agit de reconstruire sur des espaces déjà artificialisés.
C'est exactement ça.
Quand je parlais de boîte à outils, c'est bien le sujet. Le sujet, c'est pas une question juridique, en fait. C'est souvent un problème de conception, un problème aussi de relation entre les acteurs. Et ces programmes sont faits avant tout pour simplifier, justement, la conduite de projet et la relation entre les acteurs. La transition écologique, ça fait partie vraiment des missions essentielles de l'agence au travers de la relation avec les collectivités territoriales. Parce que les collectivités territoriales sont des acteurs essentiels de la transition écologique. Il faut leur donner aussi les moyens de pouvoir jouer ce rôle. Donc, on a par exemple un outil contractuel qui est très important, qui est le contrat de relance et de transition écologique, qui a été lancé par le Premier ministre Jean Castex. Donc, ce contrat de relance et de transition écologique qui est passé au niveau d'une intercommunalité ou d'un regroupement d'intercommunalité. On s'entend sur des objectifs de politique nationale. Ouais. On met en face des projets portés par les collectivités locales et l'État participe.
Ça, c'est top. Donc, c'est une formidable initiative.
Alors, et ça, c'est 843 maintenant territoires au niveau national. C'est-à-dire que tout le territoire est couvert. Et c'est vraiment une relation contractuelle. C'est-à-dire que chacun vient avec ses objectifs et les confronte et s'entend sur une sorte de charte sur plusieurs années, à la fois pour utiliser les crédits du plan de relance et aussi pour mettre en œuvre donc la transition écologique.
Alors, Jean-Yves Le Breton, si on veut en savoir plus...
Oui. Pardon. Mais si vous voulez m'appeler Jean-Yves, il n'y a pas de problème non plus.
Je croyais que c'est... Ah, c'est Yves Le Breton.
Ah oui, mais je vous en prie.
Vous savez que je vous ai appelé Jean-Yves toute la...
Oui, oui, mais c'est pas...
vous êtes un super client parce que je vous ai appelé Jean-Yves. À un moment donné, il va me dire, appelez-moi Georges.
Vous pouvez aussi, d'ailleurs, c'est pas de problème.
Yves, bon, c'est un plaisir de vous écouter. Franchement, et ce qui est bien, c'est que vous avez pas éludé les questions parce que j'ai essayé de vous tacler un peu, vous avez remarqué, mais vous avez répondu, c'est top. Si on veut en savoir plus sur l'activité de la NCT, il y a un site internet?
Oui, il y a un site internet qu'on a
www.anct.fr.
Et donc, ce site, il était conçu pour l'utilisateur. C'est-à-dire, je suis maire, je suis fonctionnaire territorial, je suis représentant de l'État au niveau local. Je voudrais avoir une idée sur un projet en particulier. On essaye de vous emmener vers un exemple concret de projet déjà développé.
Alors, vous savez ce qu'on va faire, puisqu'on prépare notre ministre Emmanuel Wargon, qui vient venir chez nous, pour un sujet de rénovation énergétique suite au nouveau DPE, vous savez, hein, qui a fait couler quand même aussi beaucoup d'encre. On va faire un dossier aussi sur les actions cœur de ville, parce que nous, on s'intéresse énormément à Territoria et à IMO, sur le sort de ces petites villes. Vous en êtes issu, j'en suis aussi issu, et je trouve qu'il y a une vraie passion territoriale pour ces villes. Hein. Je suis sûr que quand vous y allez, il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de l'émotion, de la culture et de l'émergence. Moi, je trouve que c'est bon signe. Est-ce que vous avez observé quand même que des personnes avec la crise sanitaire, parce qu'on a parlé d'exode urbain qui n'a pas vraiment eu lieu, mais est-ce que ces petites villes, vous savez, que vous soutenez, est-ce qu'elles ont tiré leur marron du feu ou pas?
Alors, c'est toujours très difficile de juger à chaud sur une évolution qui sans doute d'ailleurs a été avant le Covid, mais qui a été accélérée par le Covid.
Oui, certainement.
Alors, les quelques indicateurs que nous avons, c'est notamment des baromètres, baromètre des prix, par exemple. Action Cœur de Ville a développé avec la Chambre des Notaires un baromètre des prix dans les villes moyennes, où on voit le frémissement des prix, là où souvent le marché était très déprimé depuis des années.
Avec un rebond.
Avec un rebond, effectivement. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est aussi, on le voit bien dans les sondages d'opinion ou autres, l'aspiration de nos concitoyens à vivre dans des villes moins importantes, à trouver des services à proximité. Enfin, on parle de la ville du quart d'heure. Alors, certains urbanistes n'aiment pas trop l'expression, mais enfin, on l'utilise quand même. Ça, je pense qu'effectivement, c'est tout à fait encourageant. Ouais.
Merci beaucoup, Yves Le Breton. J'ai dit Yves. Hein.
Ah, bravo.
On fera un dossier. Vous viendrez chez nous dans nos studios avec des élus pour parler. On choisira des élus emblématiques. D'ailleurs, on vous appellera pour ça, pour parler de ces projets de façon très positive, très résolue. Yves Le Breton, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ANCT, Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Voilà,
ce
podcast est bien sûr disponible sur l'application de Radio Imo, de Radio Territoria. Vous pouvez la récupérer, la partager bien évidemment, et surtout la commenter. Et si vous êtes un élu, c'est plutôt pour vous justement. Merci et à tout de suite.
Le SNCL, le Salon des maires et des collectivités locales, du 16 au 18 novembre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Action Logement sur Radio Imo et Radio Territoria.